Face à l'info sur la première.
Et ce soir, un titre, un livre, le nouvel essai de Daniel Cohen, Le monde éclos et le désir infini. L'économiste français est votre invité, Eddy Kachelbergs.
À quelques semaines d'une COP21, dans cette réunion qui va définir, si possible, nos missions pour l'avenir de la planète, il y a lieu de se poser beaucoup de questions angoissantes. Et le titre du livre de notre invité, Daniel Cohen, est terrible, « Le monde éclos et le désir infini ». Il le publie chez Albin Michel, comme d'ailleurs Homo Economicus, par exemple, son précédent, et qui est dans le droit fil, évidemment, de ce que nous allons évoquer ici. Alors ça pourrait paraître le meilleur des mondes, hein. Notre désir est infini, pourquoi pas ? Le monde éclos, faut-il s'en inquiéter ? Eh bien oui, parce que les deux termes de l'équation sont probablement inconciliables et que pourtant nous en avons fait une doxa, puisque, et c'est ce que Daniel Cohen va nous expliquer, la mécanique de la croissance économique étant au cœur même de notre profession de foi dans l'avenir, nous imaginons évidemment que pour la relancer, la maintenir, la faire croître, il faut en permanence que nos désirs soient excités, oui mais la production et la capacité de la planète à les servir, ses désirs, elle, n'est pas forcément extensible.
Soir première,
face à l'info.
Bonsoir Daniel Cohen.
Bonsoir.
Alors on s'était vu pour Homo Economicus, vous nous aviez convaincu qu'il y avait effectivement en nous cette espèce de fatalité maintenant qui était installée, ce qui est presque devenu notre ADN. Nous sommes un Homo Economicus, certes notre planète a des ressources que l'on peut circonscrire et limiter, et par contre on nous dit que pour que la croissance et le bonheur continuent, il faudrait que l'on produise et consomme toujours plus.
Le titre du livre lui-même, « Le monde éclos et le désir infini » est une reprise d'un livre d'un philosophe des sciences, Alexandre Coiré, qui s'appelait « Du monde clos à l'univers infini », dans lequel il avait décrit la grande transformation qui s'est opérée au XVIIe siècle dans la conscience européenne, dans la conscience occidentale, lorsque Galilée, Descartes et Newton ont fait comprendre que l'univers était infini et vide, c'est-à-dire sans doute privé de la présence des dieux. Et tout cela avait créé une crise de la conscience européenne, c'est le titre d'un autre livre de Paul Hazard, un moment de dépression, on en lit d'ailleurs les traces dans l'échange entre Pascal et Descartes. Pascal est celui qui s'inquiète de cette absence de la présence divine. Il dit du dieu de Descartes, c'est quelqu'un qui met une fois pour toutes d'une chiquenaude en mouvement le monde, mais qui se retire ensuite de la vie des humains, ce qui évidemment n'est pas acceptable. Et il faudra attendre un siècle, le XVIIIe siècle, avec la philosophie des Lumières, pour qu'un nouvel idéal terrestre vienne se substituer à l'idéal religieux, à l'attente religieuse d'une rédemption par le divin. C'est la philosophie du progrès. Cette philosophie du progrès, pour les gens qui l'énoncent, les Diderot, les Rousseau, c'est une philosophie du progrès, de la perfectibilité, dira Rousseau, morale, politique. Descartes disait « Nous pouvons être comme maître et possesseur de la nature » et au fond Rousseau lui répond « Essayons d'abord d'être comme maître et possesseur de la société où nous vivons ». En pratique, ça fait le lien maintenant avec votre question, cet idéal du progrès va devenir l'idéal du progrès matériel. C'est dans l'espoir que la croissance économique nous hisse collectivement au-dessus de notre condition que cette idée de perfectibilité va en réalité trouver sa trace. C'est ça dont nous sommes les héritiers aujourd'hui. Et pour le dire d'une formule, si cette promesse d'une amélioration de la condition matérielle de chacun venait à disparaître, alors ce serait comme une deuxième mort de Dieu. Nous serions à nouveau confrontés à ce vide dont les contemporains de Newton et de Descartes ont fait l'expérience. C'est la raison pour laquelle nous ne voulons pas l'admettre. Nous voulons croire, oui, je crois, en cette religion du monde laïque que nous occupons depuis le XVIIIe siècle, cette religion de la croissance économique.
Oui, mais cela signifierait, au constat actuel en tout cas, au bilan que l'on peut tirer pour le moment, que ces lumières que d'aucuns, et dans notre société ils sont quand même nombreux en sens encore, auraient pratiqué la trahison des clercs, parce que, en quelque sorte, ils auraient emmanché la machine qui ne peut mener qu'intellectuellement et physiquement, le désastre.
Voilà. Il y a un procès des Lumières qui est souvent fait, qui est injuste par rapport à ce que pensaient les philosophes des Lumières eux-mêmes, mais il y a eu deux trahisons des Lumières. Nous vivons la deuxième, mais il faut bien la distinguer de la première parce que c'est ça qui devient peut-être une promesse d'espoir. La première trahison des Lumières, c'est celle que je viens de dire, la promesse du progrès matériel qui n'est pas du tout ce que les Lumières avaient en tête, mais c'est une trahison qui, en fait, se redouble d'une trahison interne, si je puis dire, qui est que les Lumières, au fond, font l'éloge d'une société de liberté, d'autonomie, d'émancipation, d'autonomie. L'homme est libre de penser comme il lui convient. La société industrielle qui se construit au 19e et au 20e est en pratique tout sauf une école d'autonomie. Dans le travail à la chaîne, les ouvriers trouvent leur place dans la production de biens sociaux, fort bien, ça c'est la promesse du progrès matériel, mais dans la société industrielle elle-même, chacun reste rigoureusement à sa place dans une société à ordre, dans une société hiérarchique, une société d'obéissance qui en réalité emprunte tous les traits sociologiques de la société agraire qu'elle a remplacée. Si la société industrielle a fonctionné, c'est à travers un paradoxe qui est qu'une société totalement immobile du point de vue social puisse offrir à chacun l'espoir, l'espérance qu'il va en réalité se hisser au niveau des autres. Vous êtes ouvrier, vous travaillez à la place qui vous est assignée sans surtout réfléchir à ce que vous faites, mais la promesse qui vous est faite, c'est tu auras une voiture comme ton patron. Dans 5 ans, dans 10 ans, toi aussi, tu viendras t'asseoir au grand banquet de la société de consommation. Et le miracle réussi de la société industrielle, c'est d'avoir une espèce de moteur immobile, pour reprendre la définition de Dieu selon Aristote, où chacun est exactement figé à sa place, mais dans la grande promesse qu'il en sortira. Ça, c'est la première trahison des Lumières, non pas une société d'émancipation, mais en réalité une société qui reste tout autant d'obéissance que celle que la société agraire avait installée. Et si on réfléchit d'ailleurs à ce que dit Marx du capitalisme au XIXe siècle, on trouve exactement la trace de ce débat et de cette dénonciation par Marx de ce malentendu. Vous nous annoncez la liberté, mais qu'est-ce qu'on voit ? Pas du tout la liberté. On voit l'aliénation des ouvriers. Bon, Marx n'avait pas prévu la hausse des salaires qui, en effet, se manifeste dans la deuxième moitié du XIXe et plus encore dans la première moitié du XXe, mais au fond, son constat est sans appel. Où elle est, votre philosophie des Lumières, quand on va se promener dans une usine de textile anglaise. La deuxième trahison des Lumières, c'est celle que nous vivons maintenant. Nous sommes passés, depuis maintenant 30 ou 40 ans, d'une société industrielle à une société post-industrielle. Et là, je reprends les termes d'un sociologue, Ronald Engelhardt, qui, je crois, a bien mis l'accent sur ce deuxième moment. Ce deuxième moment, c'est, non, l'autorité, la hiérarchie, c'est fini. Le monde vertical, terminé. Chacun, maintenant, est autonome, créatif. Vas-y, épate-moi. Cette société de créativité qui se substitue à la société d'autorité, c'est la société du numérique qui remplace la société du tout électrique. Le tout électrique, c'était le travail à la chaîne, chacun à sa place. Le tout numérique, c'est, voilà, vous êtes, comme je vous vois, derrière un logiciel. Allez, faites tout et soyez créatifs. Mais on est passé d'un extrême à un autre. On est passé d'un extrême d'obéissance absolue, de répétition totale, à un monde dans lequel toute répétition condamne l'employé concerné par la numérisation. Si vous vous répétez, on va vous numériser. Donc l'injonction d'être créatif devient une pression, une épée de Damoclès au-dessus de la tête des gens. Et l'idéal des Lumières qui pouvait s'annoncer, on va dire avec mai 68, voilà, chacun est libre de vivre sa vie comme il l'entend, se transformant en une injonction devient une souffrance. Et si par cet étrange détour, cette société qui s'annonce comme une société de tolérance, aujourd'hui retrouve la xénophobie, le racisme, la tentation du repli sur soi, c'est parce qu'elle n'a pas tenu cette promesse de libérer les gens des contraintes de la nécessité et, au fond, en recréant de l'insécurité économique, les rendre en réalité nostalgiques de ce monde d'obéissance mais protecteur qu'avait fabriqué la société industrielle.
Parce que j'imagine également, Daniel Cohen, que cette extrême individuation que le numérique offre aussi, où tout peut être taillé en costume sur mesure, où chacun peut tenter de se créer même l'avatar virtuel, etc. Où, bref, où nous pensons pouvoir nous approprier ce que nous sommes en tant que tels dans le système et donc nous séparer du voisin, tue aussi le sens du collectif, le rapport au collectif, la revendication collective.
Alors, c'est un élément peut-être plus paradoxal encore, enfin, on va d'un paradoxe à un autre, de la société aujourd'hui de l'information et de la communication. Si on réfléchit à ce que propose la société numérique comme société de consommation, là, au fond, j'ai parlé des choses du point de vue du producteur, l'ouvrier qui numérisé est en ballottage constant sur la valeur de son travail, de sa contribution au monde productif. Si je regarde les choses du point de vue du consommateur, Qu'est-ce que nous promet la société numérique? Elle nous promet trois choses. Une, c'est de gérer les inconvénients de la société industrielle. Donc, il y a chacun sa voiture. Le résultat, c'est qu'il y a des embouteillages. Il faut 2 heures pour aller d'un point à un autre dans une ville. Donc, le numérique, avec le covoiturage, avec le guide malin, etc., va vous aider à gérer ça. Donc, les voitures sont de plus en plus subtiles. Mais, en réalité, le plaisir à conduire dans une voiture en ville, il est devenu nul, voire négatif. Donc, on essaye de compenser ça avec des gadgets dans la voiture ou avec, bon, voilà, des manières de réduire la pression grâce au covoiturage. La deuxième promesse, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est la santé. Ça, c'est un vrai nouveau domaine. Certains nous promettent l'immortalité. On pourrait télécharger sa conscience dans une clé USB, ressusciter. Bon, il y a toutes sortes de choses là très intéressantes. Ça n'est pas de la croissance économique. Vivre 2 fois plus longtemps, c'est bien. Mais si on a la même richesse, ça veut dire être 2 fois plus pauvre. Donc, il faut réfléchir à ça. Et la troisième chose, c'est le terrain sur lequel vous m'entraînez, qui est que, en fait, la société de communication, de l'information, elle propose aux humains de communiquer entre eux. Et c'est là que ça devient plus subtil et ambigu. En fait, on veut communiquer avec les autres et la grande promesse, peut-être autre trahison des Lumières, c'est qu'on est dans un monde très ouvert. Je vais librement communiquer avec un Chinois à l'autre bout de la planète, etc. En pratique, ça n'est pas comme ça que ça se passe. En pratique, on communique avec ses pairs, avec les gens, avec vos amis, avec les gens qui vous ressemblent. Et donc, cette société de grande ouverture, elle ne crée pas de l'individualisation pure. Elle crée de l'entre-soi. Elle crée une horizontalité.
L'économiste Daniel Cohen est l'invité ce soir de Face à l'Info. Votre invité, Eddy Kachelbergs.
Deuxième partie, et je reprendrai sur le constat quand même un peu effrayant que vous nous faisiez en chute là, juste avant l'inforoute, Daniel Cohen. Cette espèce d'entre-soi, hein, cette nouvelle stratification, somme toute, que l'ère numérique nous offre, à mettre en parallèle des discours prégnants aussi autour religieux que nous voyons maintenant, où l'identité est forte autour de textes très codifiants, et on songe bien sûr à l'islam, mais pas que. Des phénomènes comme le Tea Party aux États-Unis ne sont pas basés sur d'autres ressorts. Est-ce que ce n'est pas la réponse fatale, en quelque sorte, à cette espèce de nouvelle tribalisation ou de clanisation ou de phénomène de déstructuration de cette trahison des clairs des lumières? En clair, nous avons engendré une réponse pratiquement inéluctable.
En effet, au-delà même de la civilisation numérique, on voit que ce que les gens recherchent est au fond la raison pour laquelle ils travaillent. Travail pour trouver une place dans la société. L'estime de soi passe par un travail. Et c'est très important. Mais si on réfléchit au pouvoir d'achat que le travail donne, à quoi dépensons-nous notre argent? Mais d'abord, principalement, c'est le plus important, à se loger. Se loger, c'est beaucoup plus que simplement avoir un toit quelque part dans une forêt. C'est vivre parmi les autres. Ce que l'usine proposait au 19e et au 20e siècle, disons au 20e siècle dans les usines Fordistes, c'est une manière de mettre toute la société ensemble autour d'un modèle de production. Les ouvriers, les contremaîtres, les ingénieurs, les patrons, au fond, partageaient même objectif de produire des biens dans un même lieu, l'usine. Tout ça vole en éclats. Chacun est dans un bureau, pour les uns un bureau d'études, pour les autres des sociétés de gardiennage et d'entretien. On ne se fréquente plus. La socialisation humaine, plus que jamais aujourd'hui, elle tient au lieu où l'on vit. Le lieu où je vis dira qui je fréquente, dira qui mes enfants vont fréquenter. Il y a une statistique que je reprends, je crois, dans le livre qui a été produite par un de mes collègues, Éric Morin, qui montre qu'en France, si on considère que les 10% les plus riches sont ceux qui gagnent plus de mémoire que 3500 euros, il y a 50% de la société française qui ne rencontre jamais quelqu'un qui est dans ces 10% supérieurs, qui vit littéralement entre soi, sans la moindre exogamie sociale qui permet même de discuter, de rêver à autre chose et d'avoir une promesse pour soi-même ou pour ses enfants, de se hisser au-dessus de ce qu'on est ou en tout cas d'être tendu vers un objectif de socialisation. Donc, oui, le paradoxe d'une société qui s'annonce comme post-matérialiste. Tout le monde achètera toujours une voiture, mais sans urgence, on s'en fiche maintenant, on peut attendre 2 ou 3 ans, c'est que la société de consommation, j'utilise parfois cette boutade, la société de consommation devient la consommation de la société. Et tout ça change totalement les règles du jeu, parce que c'est un peu un jeu à somme nulle maintenant. Dire « je veux être plus riche », c'est plus pour acheter une voiture. La marchandise ne joue plus ce rôle de médiateur qu'elle a pu avoir dans la société industrielle. Bien sûr, toujours il y a eu des segmentations sociales, mais la production de marchandises donnait l'espoir que tout ça allait se régler, au moins de manière dynamique. Maintenant qu'on n'a plus ça, ou beaucoup moins ça, Ce qui compte, c'est de payer les traites, les charges qui permettent de se socialiser ou ses enfants dans les meilleures conditions possibles. Où j'habite va déterminer ma consommation de biens culturels, d'éducation, mais aussi de santé. C'est là que les médecins que je vais fréquenter, etc., vont me soigner. Donc ça devient absolument vital. C'est un jeu à somme nulle parce que si tout le monde veut être au même endroit, le prix de l'endroit où tout le monde veut être augmente. Et donc, d'une certaine manière, la disposition de la société autour d'un espace géographique, ce sera toujours le plus riche qui aura le meilleur endroit, et ainsi de suite. Donc, il y a une réflexion en profondeur à avoir pour penser une nouvelle civilisation urbaine qui permette d'aérer un peu tout ça. Et ça, ce n'est pas la croissance économique, le supplément de pouvoir d'achat qui va permettre de le faire aboutir.
Je vais oser évidemment un parallèle furieux et j'en ai conscience, hein, mais lorsque d'une part une certaine gauche encense aujourd'hui les tenants de la décroissance ou de la sobriété volontaire, est-ce qu'ils ne rencontrent pas avec d'autres mots, certes pas avec le même cadre de référentiel, mais ce que des mouvements, j'y reviens, mais comme l'islam ou un certain islam aujourd'hui dit, revenez aux fondements, aux essentiels, halte au profit, à tout craint, il y a d'autres référents altruistes, même si ça s'accompagne aussi d'un autre terme de discours. Mais somme toute, il y a là aussi une forme de sagesse. Ils ne disent rien d'autre que un peu de sobriété, que diable.
Oui, je pense que le